La protection de la planète est l'enjeu majeur de ce siècle pour la communauté internationale. Mais cette lutte rejoint le combat des peuples autochtones pour leur survie. Cette convergence des luttes était au cœur d'une table ronde, organisée début avril à Grenoble, dans le cadre d'une quinzaine dédiée à la résistance des peuples autochtones et aux écocides, avec, en point d'orgue, la question des menaces qui pèsent sur les peuples autochtones du Brésil. Bonjour Marion Weber.
Bonjour.
Chargée de mission Droits des Peuples à la Fondation France Liberté. Alors vous étiez présente à Grenoble le 9 avril dernier, vous participiez à cette table ronde. Autour de cette idée, respect de la nature et défense des peuples autochtones restent totalement liés.
Peut-être un chiffre pour illustrer cette proximité en fait entre défense des droits des peuples autochtones et défense de l'environnement. C'est qu'aujourd'hui, les peuples autochtones ils occupent environ 20% des territoires sur la planète, mais dans ces 20% se trouve 80% de la biodiversité mondiale. Donc effectivement, le lien entre protection des écosystèmes, de la nature et droits des peuples autochtones est extrêmement fort. Et aujourd'hui, nous, un de nos axes de plaidoyer très fort, c'est justement que la lutte contre le changement climatique et pour la préservation des écosystèmes, elle passe par la reconnaissance des droits des peuples autochtones pour qu'ils puissent gérer leur territoire comme ils le souhaitent, parce qu'on sait que de par leur mode de vie, leur cosmovision, ils ont un rapport à la nature qui est généralement beaucoup plus harmonieux que nos sociétés occidentales. Même si on ne peut pas généraliser ça à tous les autochtones, c'est une grande diversité, mais quand même, on constate un autre rapport à la nature que celui qu'on a en Occident, entre guillemets.
Et inversement, le dérèglement climatique menace la biodiversité et donc leur survie.
C'est ça, c'est effectivement parmi les premières victimes de ces menaces environnementales et climatiques, mais aussi du coup les premiers en front en fait, de résistance. Donc, ils sont extrêmement mobilisés en fait, pour défendre leur territoire. Et donc, ils se mobilisent aussi, en fait, pour nous tous.
Alors, face à ces attaques, les peuples autochtones s'organisent et agissent, notamment dans les instances internationales.
Oui, en fait, les peuples autochtones ont pénétré dans les instances internationales depuis plusieurs dizaines d'années. Mais c'est vrai qu'avec la COP21, on a eu une plus grande visibilité de leur lutte. Et aujourd'hui, des instances comme le GIEC reconnaissent même leurs connaissances traditionnelles comme des éléments à réellement prendre en compte, puisqu'ils ont une connaissance très très fine en fait de la biodiversité, des écosystèmes, ils peuvent prévoir des changements de météo, etc., de par leur observation de la biodiversité. Donc ils arrivent en fait à faire reconnaître leurs connaissances au même titre que de la science dite occidentale. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, dans de nombreux textes internationaux, la question des peuples autochtones et de leurs droits est souvent mise en avant, malheureusement très souvent, que dans les préambules et dans des articles non contraignants. Mais c'est déjà un premier pas. C'est un premier pas pour rendre visible cet enjeu-là.
Et il y a aussi l'enjeu de l'écocide, hein, qui est aussi porté par leurs représentants.
Oui, en fait, pour eux, l'écocide, donc finalement le fait de tuer les éléments qui la nature et les équilibres des écosystèmes, elle va de pair avec ce qui eux nomment génocide ou parfois ethnocide, c'est-à-dire qu'en tuant la nature, on tue ces peuples, puisqu'on met à mal leur mode de vie, et donc souvent ils lient les deux, que écocide, ethnocide, génocide sont extrêmement liés, et donc ils se font en fait les porteurs effectivement de nouveaux termes juridiques. Ils sont aujourd'hui de plus en plus repris par des juristes ici occidentaux qui visent en fait à repenser notre système de droit. C'est le même principe aussi avec la montée en puissance de ce qu'on appelle les droits de la nature, reconnaître des droits à la nature.
Alors, exemple concret de ces menaces, le Brésil. Là-bas, les peuples autochtones subissent depuis longtemps ces attaques, déforestation, exploitation minière, entre autres. Trois représentants de ces populations étaient présents à Grenoble, des artistes et avocats militants qui sont venus témoigner. Alors, quel constat de la situation qu'ils vivent depuis des années ont-ils mis en avant ?
Effectivement, le constat, c'est un constat d'une situation qui se perpétue en fait dans le temps, mais qui, avec la récente élection de Bolsonaro, s'intensifie. Donc eux, ce qu'ils venaient faire avec cette tournée en Europe, c'était d'alerter sur toutes les menaces qui pèsent sur les peuples autochtones en ce moment au Brésil, avec notamment ce nouveau président qui est ouvertement raciste et qui entend finalement mener une politique extrêmement assimilationniste des autochtones et ouvrir leur territoire en fait à l'exploitation, parce qu'ils considèrent que les territoires autochtones sont improductifs, c'est-à-dire que le fait que ce soit une forêt inexploitée dont les ressources telles que l'or, l'eau, etc. ne sont pas exploitées, c'est une perte pour le développement du pays. Donc ils souhaitent vraiment ouvrir à l'exploitation tous ces territoires. C'est une véritable menace pour les autochtones aujourd'hui.
Et vous le disiez, la situation s'est aggravée depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir. Il parle clairement d'un retour en arrière sur tout un tas de droits humains.
C'est ça. En fait, on a eu plusieurs exemples. Là, ça fait seulement un peu plus de 100 jours que M. Bolsonaro a été élu. Mais on a eu déjà énormément de signes extrêmement négatifs, avec par exemple la démarcation en fait des territoires autochtones, qui permet aux autochtones d'avoir des droits sur leur territoire. Elle a été transférée du ministère de la Justice au ministère de l'Agriculture. Or, quand on sait qu'au Brésil, l'agro-business est extrêmement puissant, on se doute que ce n'est pas anodin que cette décision-là a été prise et que ce soit maintenant le ministère de l'Agriculture qui soit en charge de cette question. On craint une montée en puissance de l'exploitation de soja, de bœuf, etc. sur ces territoires. Mais aussi, un autre exemple plus récent, c'est que il y a quelques semaines, le gouvernement a aussi souhaiter finalement mettre fin au système de santé autochtone qui permettait aux autochtones d'avoir accès à des soins sur leur territoire et des soins qui soient adaptés à leurs besoins spécifiques. Monsieur Bolsonaro souhaitait rompre avec ce système, mais évidemment les autochtones se sont très très fortement mobilisés. Il y a eu énormément de protestations et finalement il y a eu un retour en arrière du ministre de la Santé. Mais c'est pour montrer qu'effectivement il y a une réelle volonté affichée du gouvernement Bolsonaro, de retour en arrière, oui, sur cette question autochtone. Il considère, par exemple, aussi que les autochtones, aujourd'hui, ont trop de territoires. D'ailleurs, les territoires sont trop importants au vu du nombre d'autochtones qui vivent sur ces terres. Mais M. Bolsonaro probablement oublie qu'avant l'existence du Brésil, ces peuples-là étaient sur leur territoire, étaient chez eux. Donc voilà, c'est ça aussi ce que les trois autochtones étaient venus nous dire, de repenser un petit peu nos conceptions aujourd'hui.
Et la semaine prochaine, nous verrons avec vous quelle vision nous invitent les autochtones brésiliens à partager pour surmonter les crises que nous connaissons. Merci Marion Weber.
Merci à vous.
Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre.